24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.
Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre? C'est parti! Mon nouvel invité initie ou approfondit la pratique de la méditation de pleine conscience. Mon nouvel invité développe des programmes pour réduire le stress, gérer les émotions, favoriser l'engagement sociétal. Pour mon nouvel invité, la pleine conscience a un rôle majeur dans l'émergence de ce qui se joue aujourd'hui. Mon nouvel invité, c'est Benoît Magrasse. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Merci d'être là. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans maintenant sur ma chaîne YouTube Périgordine. À l'époque, tu avais débuté ton activité en septembre 2020. On s'est rencontrés l'émission a été diffusée en mai 2021. Donc voilà, ça fait 3 ans que tu développes ton activité basée sur la pratique de la méditation de pleine conscience, comme je l'ai dit au début. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et comment tu es venu à cette pratique?
Alors la méditation de pleine conscience, c'est une pratique qui prend ses origines et ses racines dans le bouddhisme, mais depuis une cinquantaine d'années, elle s'est développée dans un contexte laïque, suite notamment à la suite d'un médecin américain qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui pratiquait la méditation de pleine conscience dans le bouddhisme, et qui travaillait en même temps à l'époque avec des patients atteints de douleurs chroniques. Et il s'est dit qu'est-ce que je peux proposer de plus à ces personnes atteintes de douleurs chroniques qui souffrent pour favoriser leur mieux-être. Alors il a pensé à la méditation de pleine conscience, et c'est comme ça qu'il a commencé à proposer des ateliers à ces personnes en leur disant ça va peut-être pas régler tous les problèmes, mais si ça peut vous aider à mieux vivre, vous pouvez revenir aux ateliers, et puis si ça ne vous convient pas, vous arrêtez. Donc moi, les programmes que j'enseigne, ils se basent vraiment sur la pleine conscience telle que John Kabat-Zinn l'a développée à l'hôpital, et qu'il en a donné une définition qui est de porter attention délibérément au moment présent, sans jugement de valeur, et on aime bien rajouter souvent avec bienveillance. Donc on peut dire la méditation de pleine conscience, c'est le fait de porter attention délibérément, donc de choisir de porter son attention au moment présent. Et c'est notamment pour ça qu'on utilise la respiration et le corps comme des points d'ancrage, puisqu'ils sont toujours là dans le moment présent, ou alors c'est qu'il y a un gros problème.
De dissociation. Et comment, toi, tu es venu à cette pratique, dans ton expérience?
Alors, c'était lors d'un voyage. J'ai vécu 1 an sur l'île de la Réunion, et c'est là-bas que j'ai commencé la méditation de pleine conscience. J'étais parti avec dans mes bagages 2 livres, dont un livre d'un maître zen qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Et le bouquin, c'était La sérénité de l'instant. À l'époque, je travaillais avec les demandeurs d'asile, puisque je suis travailleur social de formation. J'étais un peu, pas vraiment en burn-out, mais j'étais assez fatigué. Ça faisait 2 ans et demi que je bossais avec les migrants. J'avais 23, 24 ans. J'avais reçu beaucoup d'histoires vraiment difficiles avec des gens qui me racontaient des traumatismes de guerre, des viols, enfin des choses assez costauds. Je pense que j'étais pas tout à fait prêt à recevoir ce que je recevais dans le cadre de ce métier. Et puis au-delà de ça, je faisais beaucoup de sport, je travaillais beaucoup, je faisais la fête, etc. Mais j'étais un peu fatigué, et puis surtout je me sentais pas véritablement comblé intérieurement. Je sentais qu'il manquait quelque chose, je savais pas trop quoi. Et bizarrement, la méditation de pleine conscience, ça a carrément été une révélation, dans le sens où la première fois où j'ai pratiqué la méditation, en moi, il y a quelque chose qui s'est posé, qui a dit c'est ça que tu cherchais, sans le savoir, et c'est ça que tu veux faire de ta vie, quoi. Donc il y a eu une évidence. Et après, ça a été le début d'un nouveau chemin où j'ai fait beaucoup de stages, des retraites, avant de me former pour animer des groupes.
Tu disais que ça répondait à une urgence intérieure. J'ai trouvé ça fort.
Ouais,
et de partage, du coup. Donc.
Ouais, j'ai toujours été en fait dans une quête de sens depuis que je suis tout petit. Je pense que j'étais un enfant qui aimait bien se poser des questions, qui était curieux. Des fois, ça, quand tu questionnes beaucoup les choses, ça peut agacer ou remettre en question l'ordre établi, etc. Mais j'ai toujours, en grandissant, cherché des réponses que dans la sociologie, dans la politique. Et c'est vrai que j'en ai eu, mais la méditation a apporté une autre réponse ou a amené à une autre recherche qui était beaucoup plus intérieure et aussi qui m'a permis de m'engager, de rester engagé, mais différemment.
Alors, tu développes des programmes. À qui s'adresse-t-il ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples ?
Oui, avec plaisir. Alors, j'ai travaillé depuis 5 ans avec beaucoup de publics différents. Donc, je travaille bien. J'ai un partenariat depuis 3 ans avec la mission locale de Bergerac. Donc, j'ai créé un programme pour les jeunes des 16-25 ans. C'est un programme qui s'appelle « Être soi-même, ça s'apprend ». Donc, c'est un programme sur la connaissance de soi. Effectivement, les trois thématiques principales, c'est les émotions, le stress, la communication. Donc ça, c'est vraiment les trois thèmes principaux, mais aussi il y a beaucoup de choses autour de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc ça, c'est un partenariat qui dure, qui se prolonge, qui se développe. Je travaille aussi de plus en plus avec des mairies, où je développe des programmes de prévention de l'épuisement professionnel pour les agents. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce que dans les groupes, j'ai à la fois des personnes qui travaillent aux espaces verts, des personnes qui sont dans les bureaux de policiers municipaux. Donc c'est très intéressant et je crois que c'est le gros avantage de la pleine conscience, c'est que quel que soit le public, en fait, quand on parle des émotions, du stress ou de la communication, ça parle un peu à tout le monde. Donc je suis intervenu aussi en détention pour des détenus, à l'école d'avocats de Bordeaux aussi pour les avocats. La protection judiciaire de la jeunesse, les travailleurs sociaux, les soignants.
Voilà. Les hôpitaux, même au début de ton activité, il me semble, psychiatrique.
Alors,
je pense à Vauclair, par exemple.
Ouais, il y avait un projet de travailler ensemble, finalement, qui n'est pas allé.
C'est un appel alors.
Voilà, c'est un appel. qui n'est pas allé au bout, mais cela dit. Eux en interne ont pu mettre en place des choses et il y a effectivement dans un service qui s'appelle le C2A à Bergerac des ateliers de méditation de pleine conscience qui sont proposés pour les patients.
Est-ce que tu peux nous donner des résultats, peut-être des choses qui se sont passées, je pense notamment aux jeunes sur la gestion des émotions, du stress, de la communication. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris finalement des évolutions que tu as notées qu'est-ce qui se passe chez ces jeunes, finalement ?
Ouais, les jeunes me surprennent souvent, à vrai dire, parce que je trouve qu'ils ont une très grande capacité à prendre conscience de leurs émotions, à mettre des mots dessus, et aussi à agir pour changer les choses quand ils ont envie de changer des choses. Je me rappelle d'une jeune où on travaillait... Alors je sais plus si on travaillait à ce moment-là, peut-être autour des valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, quelles sont mes valeurs, et surtout à travers un petit exercice assez simple, c'est quoi la prochaine action que je peux mettre en place, qui soit réaliste, qui soit simple, pour aller dans le sens de mes valeurs et voir qu'est-ce que ça change dans ma vie. Et donc c'était une jeune qui avait mis au centre la valeur de la famille et de l'amitié. Enfin, les valeurs de famille et d'amitié. Et dans les deux jours qui ont suivi l'atelier, elle a écrit une lettre à un de ses amis avec qui elle n'était plus en contact pour renouer le lien. Et elle est arrivée à l'atelier suivant super contente, etc. Et en fait, ça peut paraître simple, mais c'est pas forcément si facile. Et les jeunes, je trouve, ils ont souvent cette capacité à avoir des déclics comme ça, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup bosser avec eux.
C'est... Tout se joue beaucoup à cet âge-là, la confiance en soi, le fait de pouvoir se projeter vers l'avenir, de s'identifier, de rentrer dans un groupe. Oui, donc c'est un âge clé. J'imagine que c'est quelque chose de nouveau, en fait. Une proposition qu'on ne leur fait pas tous les jours.
Oui, tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser à une autre jeune qui un jour dit... Alors, dans les ateliers, je fais un petit peu de pleine conscience, mais on fait aussi pas mal de cercles de parole et d'écoute. Donc, c'est vraiment des espaces où on crée de la sécurité, de la confiance pour que chacun puisse s'exprimer sans avoir la crainte d'être interrompu, donc d'être entendu, et puis d'entendre aussi les histoires et les récits des autres jeunes. Et donc, une jeune, à la fin des 4 séances, puisque le programme, c'était sur 4 séances, elle dit je crois que c'est la première fois de ma vie que je me suis senti entendu, écouté de cette manière-là. Et donc ça, moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est banco, quoi. Enfin, c'est un vrai cadeau. Donc, dans ces programmes avec les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de l'acceptation. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui souffrent de la solitude et de l'isolement. Et ces espaces-là, c'est des espaces où souvent ils se rendent compte qu'il y a d'autres jeunes qui partagent les mêmes difficultés ou des difficultés assez similaires. Ça crée du lien, ça sort d'une forme de solitude, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à être dans cette difficulté-là. Donc parfois de l'entraide, des liens entre les jeunes. Et que ce soit des jeunes qui parlent beaucoup ou d'autres qui parlent pas ou peu, il se passe toujours quelque chose, parce que même ceux qui parlent peu ou pas, rien que le fait d'écouter les récits, les histoires, souvent, il y a un déclic et à un moment donné, ils prennent la parole pour raconter leur histoire à eux. Donc, ça tourne beaucoup autour du lien et comment on vit ensemble, en fait.
Et pour les professionnels, tu parlais d'épuisement professionnel, de burn-out, c'est quelque chose qui... Est-ce que tu vois une évolution là-dedans ? Je pense qu'il y a pas mal de... d'arrêt maladie, enfin, lié au travail, de souffrance finalement liée au travail. Est-ce que c'est une activité qui se développe justement pour, comme solution ?
Ouais, je pense vraiment que, en tout cas dans les collectivités avec lesquelles je travaille, il y a une vraie prise de conscience. Mais je pense que plus globalement aussi, à l'hôpital ou dans le domaine de la santé, du social ou bien d'autres domaines, il y a une vraie prise de conscience autour de la souffrance au travail, de l'épuisement professionnel. Ça coûte super cher en plus à l'assurance maladie. Une des professions les plus concernées par le burn-out, c'est les médecins. Donc c'est aussi des professions qui sont à la fois dans l'aide, mais qui sont aussi très exposées à la souffrance humaine au quotidien. Ça accentue les risques de burn-out, par exemple, chez les soignants ou les travailleurs sociaux. Après, dans les milieux professionnels dans lesquels j'interviens, oui, je peux constater qu'il y a, pour diverses raisons, il y a souvent de la pression ou des communications qui peuvent être tendues, et du coup, ça coûte au niveau corporel, au niveau émotionnel, ça a un impact, et donc il y a parfois une forme d'usure qui peut être là. Et créer ces espaces-là, c'est aussi des espaces où les personnes peuvent déposer leurs difficultés, leurs questionnements, leurs joies, leurs peines. Et rien que ça, je pense, ça amène beaucoup de soulagement. Ça crée du lien dans les équipes aussi, puisque dans les milieux professionnels, quand les gens font ces programmes-là ensemble, ils vivent après le quotidien tous les jours ensemble. Donc sans même reparler tellement du programme, ils ont quand même vécu quelque chose de fort ensemble, généralement.
Donc on a bien compris, en t'écoutant, Benoît, les bienfaits de la pleine conscience, donc la gestion des émotions, la gestion du stress, les effets en termes de communication. Toi, tu vas plus loin encore et tu parles d'une nouvelle façon de vivre ensemble, tu parles de plus de compassion, que ça amène de la joie et que ça amène vers plus de non-discrimination. Enfin, c'est tout un programme.
Ouais, c'est tout un programme et à la fois très, très simple. Tu vois, j'ai souvent l'impression que ce que j'amène dans les programmes, c'est du bon sens. On travaille souvent autour de trois liens. Il y a le lien à soi, il y a le lien aux autres, et puis il y a le lien à l'environnement et à la nature. Et parfois... on peut être un peu dissocié de ces liens qui nous font vivre, comme dirait Christophe André, le psychiatre. On peut être un peu coupé de soi-même, un peu coupé de ses émotions, mais être coupé de ses émotions, les émotions, parfois, c'est le vecteur de lien, justement, et que pleurer ensemble ou se réjouir ensemble, ça crée du lien et des liens forts et humains. Donc ça va, c'est des programmes qui sont pas forcément, ça demande du courage de les vivre. C'est pas forcément, c'est simple et en même temps c'est pas forcément facile pour les participants. Mais comme il y a ce cadre sécurisant et de confiance, on peut aller ensemble dans des espaces de vulnérabilité qui finalement nous relient les uns aux autres. Et donc la pleine conscience, en soi, c'est quoi ? C'est une invitation à ralentir, à prendre conscience de ce qui nous habite, de ce qui est agréable, de ce qui est désagréable. Et d'ailleurs, c'est recommandé, c'est une pratique qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé dans la prévention du burn-out. Mais pourquoi ? Parce que comme je viens porter attention à mon corps, à mes ressentis, à mes émotions, ben au plus j'y porte attention, au plus je peux prévenir des situations à risque ou un stress qui est chronique ou quelle situation me stresse. Donc effectivement, je pense qu'il y a une dimension de prendre soin et que prendre soin de soi, ça amène forcément aussi, hein, si je suis bien avec moi-même, je vais un peu naturellement être mieux avec les autres.
Et se porter attention à, dans la pratique, est-ce que ça demande beaucoup de temps de revenir à soi, revenir dans son corps ? Est-ce que ça peut durer 5 minutes ? Ou au contraire, parfois ça demande plus de temps ? Est-ce que ça demande une pratique régulière aussi ? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour que ce soit efficace ?
Souvent, on parle de la pleine conscience comme d'un entraînement, en fait. C'est un peu comme des gens qui vont à la salle de sport pour muscler le corps. La pleine conscience, c'est comme un entraînement de l'attention. Donc on se rend compte que notre esprit, dans les phénomènes du stress par exemple, on se rend compte que nos pensées, on pense au futur, on a ces anticipations anxieuses, je pense à demain ou à la semaine prochaine ou à dans 5 ans ou à la prochaine catastrophe qui peut arriver, etc. Donc mes pensées sont dans le futur, mon corps est dans le présent, mais je suis embarqué dans le phénomène des pensées. Ou alors dans les ruminations concernant le passé, ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai pas pu, ce que j'aurais aimé, etc. Et donc je suis pas Thich Nhat Hanh, qui est ce moine zen là, il disait, Descartes disait « je pense donc je suis », et Thich Nhat Hanh en boutade il disait « je pense donc je suis pas vraiment là parce que je vais penser à l'avenir, au passé ». Donc la pleine conscience, c'est vraiment ce moment où je prends conscience que mon esprit s'est égaré dans des pensées, est parti dans le futur, et ben je peux le ramener à ce moment-là, au moment présent, à mes pieds sur le sol, à ma respiration, à mes fesses sur la chaise. Et c'est ça cet entraînement en fait, au plus je me rends compte que je suis parti, au plus je reviens, au plus je muscle cette qualité d'attention et de présence au quotidien. Donc effectivement, ça peut se faire sur des temps de 5-10 minutes. Je pense que c'est plus intéressant de prendre, pour des personnes qui veulent commencer par exemple, de prendre 5 ou 10 minutes pour s'exercer, plutôt que de se dire je fais 30 minutes. Oui. À mon avis, ça peut être intéressant de commencer plus court, mais d'être vraiment là, et puis petit à petit peut-être d'allonger les séances. Et en même temps, c'est pas du tout une pratique qui est coupée de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que porter attention, c'est aussi quand je marche, c'est aussi quand je suis en relation, quand je suis dans la nature, ça peut être écouter le son des feuilles, des arbres ou de la rivière qui coule. Ça peut m'aider à être là.
Tu dis que, alors tu as une corde en plus à ton arc, c'est que tu es auteur, compositeur, interprète. Et tu dis que les apports musicaux et créatifs, finalement, ils sont au cœur de tes interventions. Donc, tu as un groupe ou tu es musicien ? Comment ça se passe ?
Ouais, alors je joue de la musique, je joue de la guitare, je compose des chansons depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. J'ai enregistré un premier petit CD qui n'est pas encore sorti, mais j'ai passé du temps l'hiver dernier en studio pour travailler sur un CD de 6 morceaux. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'on m'a proposé de jouer là, dans un concert au profit de l'entraide protestante qui mène des actions caritatives à Bergerac. On va faire un concert, on est plusieurs à a joué dans la même soirée le 15 février à 20h à l'auditorium François Mitterrand.
À Bergerac.
À Bergerac. Donc je mêle l'utile à l'agréable, comme on dit. J'ai pas de très grandes prétentions sur le plan musical, en tout cas, mais si ça peut être au service d'une œuvre humaine et des liens, tu vois, l'axe, il reste le même, quoi. C'est de créer du lien, de la convivialité, favoriser le vivre ensemble. Et je pense que, voilà, c'est un discours que j'ai de plus en plus envie de porter, d'assumer, de défendre, compte tenu de, voilà, des discours qu'on peut entendre jour après jour.
Et donc, c'est de ta voix, ta guitare, c'est ça ?
C'est ça, ouais, je compose mes textes, je chante, je joue. Voilà, c'est des textes aussi. Alors, le lien peut-être avec la méditation, c'est... la méditation, c'est comme une pratique quand même qui ramène à l'intérieur. Et la création artistique, pour moi, c'est aussi partir de cet endroit à l'intérieur, d'une forme sensible aussi, de situations que je rencontre, de gens que je rencontre. C'est pas compliqué. Dans mes chansons, je chante la vie, je chante les rencontres, je chante mes questions, mes doutes, mes joies, mes valeurs, en fait. Et je trouve que le côté artistique, c'est un vecteur pour partager aussi, pour mettre en lien, hein. Je vais encore répéter ce mot de lien, mais...
Ce que tu me dis là, ça me fait penser que il y a quelque chose qui détourne beaucoup notre attention depuis quelques années, c'est les réseaux sociaux, en fait. On est consommateur de ça, de ces on a tendance à scroller. Et est-ce que ça, tu vois, est-ce que tu l'abordes dans tes séances? Et comment tu l'abordes ?
Ça peut vraiment avoir sa place, ouais, dans les séances. Le prochain atelier que j'anime à la mission locale, c'est le thème... au début, on était parti sur le thème de l'alimentation. Et puis finalement, pour moi, c'était un petit peu restrictif par rapport à ce que je fais. Et on est plus parti sur le thème des perceptions sensorielles. Et s'intéresser aux perceptions sensorielles, c'est s'intéresser à de quoi je me nourris, qu'est-ce que j'absorbe. Mais c'est à la fois... alimentaire, ce que je mange, etc., ce que je bois, mais ça peut être aussi ce que je regarde, ce que j'entends, et ce que je consomme par mes cinq sens. Et donc les médias, les réseaux sociaux, etc., la pratique en pleine conscience un peu des médias ou des réseaux sociaux, ce serait de noter peut-être qu'est-ce que ça me fait dans mon corps quand je scroll sur Facebook ou autre, quand je passe du temps sur Facebook, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que ça vient nourrir simple ? Et ça peut se faire assez simplement, c'est-à-dire prendre un temps de pause et peut-être ressentir qu'est-ce qui est à l'œuvre en moi, c'est quoi ma vraie intention en passant ce temps-là sur les réseaux, et finalement ça peut carrément être aussi une addiction, hein, pour certains jeunes, notamment la mission locale. Donc un mécanisme en fait où ça vient nourrir quelque part, peut-être que ça vient apaiser dans un premier temps, ou ça vient exciter s'il y a un manque d'excitation. Mais peut-être qu'à long terme, il y a des effets qui sont... Alors, on y revient, mais puis finalement, l'addiction peut s'installer, quoi.
Ben, merci beaucoup, hein, Benoît, vraiment, de ce tour d'horizon, de cette pratique.
Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir d'en échanger.
À très bientôt.
À bientôt, merci.
4 minutes pour une rencontre.
Une chronique proposée et présentée par Perry Gordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.